Tout le monde et bienvenue sur Radio Cause Commune dans l'épisode numéro 78 de l'émission Tatapoum, l'émission qui décortique les sorties punk, rock et autres musiques bruyantes de ces derniers mois, parfois avec bienveillance et souvent avec mauvaise foi. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est de la mauvaise foi de nos chroniqueurs et chroniqueuses, avec autour de la table Mathieu, Guillaume, Cédric et Héloïse, ainsi que Bibi et Marion derrière la console. On avait réussi à échapper la dernière fois, mais on ne pouvait pas passer à côté de l'Australie pour parler du groupe Public House qui sort son premier album. Nous repasserons ensuite par la France pour emmerder la bienséance avec le nouvel album de King Kong Muff. Un petit saut aux États-Unis s'imposera avec The Birth Defect. Et enfin, nous irons voir chez les Grecs pour parler de l'album du groupe EKT. On commence tout de suite avec le titre Police State, choisi par Cédric, issu du premier album futur du groupe australien Public House. C'était donc Police State, issu de l'album fraîchement sorti Futur de Public House, et c'est Cédric qui va nous en dire quelques mots.
Oui, on est de retour à Melbourne, comme souvent dans cette émission, mais avec la Rolls cette fois. Un album hyper attendu, hein, un peu comme le Messie. C'est après des prestations scéniques du groupe complètement survoltées, notamment des passages remarqués au Binic Festival. Le groupe a été créé en 2024 et a produit quelques singles et EP, mais on attendait l'album. Et parce que ce groupe ne vient pas de rien, hein, il s'agit du projet de Wolfgang Buckley et de James McClurg, qui est à la guitare. Wolfgang, donc le chanteur, est en effet le frontman de Zone Beaches et surtout de Steve Richards, un groupe bien connu et vraiment excellent de la scène australienne. On a un peu l'impression que tout ce qui touche se transforme en or punk. Tout ça est accompagné par une basse et une batterie. Et donc voilà, l'album sort enfin en France, chez Beast Records de Rennes et à la Nef des Fous de Binic, auxquels ils sont abonnés. On les retrouvera encore cette année pour deux concerts. Et on retrouve sur cet album tout ce qui fait l'attrait de Steve Richards, c'est-à-dire une voix parlée, chantée, une énergie punk à faire danser les paralytiques, un son lourd, foutraque et accrocheur. L'énergie du live est rendue sur l'album sans fioritures, mais aussi sans être enregistrée à la va-vite. Les 10 titres répondent au canon du genre, ça tourne autour de 2 minutes sans temps mort. Alors ils ont mis du temps à le sortir, mais ça valait la peine, tant la palette totale du punk lourd y passe avec ses changements de rythme, la cavalcade toujours au coin du titre, un débordement de synthé au premier plan, notamment sur Kali Yuga, ou un peu plus posé sur Stalker. Et donc le chanteur occupe toujours beaucoup de place, mais la rythmique est très impressionnante et les riffs, c'est vraiment quelque chose dans ce groupe. Et pour ne rien gâcher, il y a aussi du texte qui révèle une dystopie très inquiétante, qui nous promet en gros un enfer sur Terre. L'univers qui est raconté est vraiment glaçant. Un peu en contrepoint de cette pochette qui sonne bon les années 80. Bref, je trouve qu'il y a rien à jeter dans cet album, que ce soit sur la musique, sur les paroles, sauf peut-être cette petite blague que j'ai pas bien comprise sur un des titres, "And I Need a Cure, Not Robert Smith". Non, fais pas des blagues sur Robert. Bref, si le futur est dégueulasse, on va sans doute profiter du moment présent en écoutant et en réécoutant cet album extraordinaire.
Et toi, Guillaume, est-ce que t'as profité en écoutant Public House?
J'en ai eu pour mon argent, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est pas mal. Non, du garage légèrement noise avec des accents métal, un son qui mélangerait les Stooges avec au hard rock australien. Voilà classifier la musique pratique Public House selon moi. Comme d'hab, a-t-on besoin de le rappeler, étant australien, le niveau d'ensemble est très bon. Du reste, les membres, comme l'a dit Cédric, ne sont pas des perdreaux de l'année. Hein. On connaît le Wolfgang Buckley de Steve Richards. Toutefois, ici, le son est peut-être plus violent, plus énergique, plus punk que son autre groupe. De ce point de vue, je l'apprécie d'ailleurs davantage. Ça demeure fondamentalement une musique d'inspiration pub rock. Une musique pour faire le bœuf, hein, des esprits médisants. On pourrait même dire de la musique de beauf. Mais un rock'n'roll, en tout cas, qui s'amuse à faire sonner sa grosse guitare avec ses potes, avec ses riffs, sans plus d'autre ambition que de se faire plaisir. C'est en quoi les fondamentaux de l'album sont aussi sommaires qu'efficaces. Ça ravit à bon compte, ça sécrète des effluves de bière et de sueur. D'une certaine façon, c'est totalement sans intérêt à mon goût. Le punk garage noise comme ça, de seconde zone, m'indiffère parce qu'il n'enfonce souvent que des portes ouvertes. Et pour autant, je me dois de reconnaître que c'est excellemment fait. N'ayant aucune affection pour cette démonstration bravache de ce rock garage sous stéroïdes, je ne peux cependant rester indifférent à la démonstration. Je reconnais volontiers que les gars savent y faire. Aussi, si j'avais à aller voir en concert à Binic cet été, je m'en tiendrais à l'habituelle prudente posture de Mathieu, non pas avec Héloïse au milieu de la fosse, mais plus en retrait avec un verre de bière à la main, à dodiner de la tête, à profiter de la performance.
Et ben, ça fait plaisir à entendre. Et toi, Héloïse, t'en as pensé quoi?
Eh ben, Public House, c'est sûrement un des groupes que j'ai le plus vu lors de l'édition 2025 du festival de Binic, qui ressemblait alors à s'y méprendre à une petite Melbourne en Côte d'Armor, tant les groupes australiens y trustaient l'affiche. Le plus vu, mais également l'un des plus aimés, si bien que j'attendais ce disque avec impatience, comme je pense tous les fans de Public House. Et autant dire que je ne suis pas déçue, loin s'en faut. Il existe parfois un gouffre entre la prestation scénique d'un groupe et ce qu'il parvient à réaliser en studio. Futur restitue au contraire tout ce qui fait le succès de Public House sur scène. Des sonorités très punk, assises sur des tempos rapides, une passion immodérée pour la distorsion et un chant féroce, mis en exergue par des riffs de guitare aussi tranchants que des scies sauteuses. Le tout au service d'un propos délicieusement politique, causant aliénation, capitalisme et concurrence entre individus. L'album s'ouvrant par exemple avec l'incroyable Police State que l'on vient d'entendre. Il en résulte un disque particulièrement péchu, taillé pour la scène, qui a tout pour consoler celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de les découvrir en live. En bref, un album indispensable qui s'écoute et se réécoute en boucle jusqu'à la nausée.
Et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh ben moi, j'ai pensé que Enfin, c'était le retour de l'Australie dans Tatapoum. La punition est levée. Parce que là, ça fait plusieurs émissions quand c'était pas possible. Enfin, c'est bien d'aller en Pologne ou dans des pays exotiques mais européens. L'Australie, on revient aux bases. Et nous voici, donc tu l'as dit Cédric, c'est un groupe récent hein, puisqu'il a été formé en 2024. C'est son premier album. On l'a vu pour certains d'entre nous à Binic l'an dernier. Et le groupe, il est composé de musiciens de groupes divers, dont le chanteur des Steve Richards, qu'on avait étudié dans Tatapoum 12 en 2021, Steve Richards. Mais oui, c'était en mode plus punk et énervé dans Public House. Alors, j'avais été marqué par la prestation scénique de l'an dernier à Binic, et le risque, il n'était pas nul d'être déçu par la version studio, puisque l'énergie souvent peut compenser des limites qui se révèlent en version studio. Là, pour le coup, rassurez-vous, la version studio, elle est aussi réussie et brutale que les concerts. Ça tombe bien, le groupe il sera encore à Binic cette année, au moins deux fois. Et puis, pour ceux qui vont pas à Binic, il sera aussi à la Maroquinerie avec les Datsuns avant Binic, le 17 juillet, si je ne m'abuse. Donc ici, il y a de l'énergie, il y a une absence de solo de guitare que j'apprécie évidemment, puisque le solo est de droite, je vous le rappelle. Il y a du sens, vous l'avez rappelé. On a l'impression que c'est un groupe déconneur, mais il y a quand même du sens dans les textes. Pour moi, c'est le cocktail idéal pour résister à l'enchaînement des canicules avant la fin du monde.
Bah, je suis contente que ça vous ait plu parce que moi, Public House, c'est mon gros coup de cœur de l'été dernier. Donc, pour se faire plaisir, on va s'en remettre un. On va s'écouter Bad Dog, toujours de Public House. C'était Bad Dog, extrait de l'album Future de Public House. Retour en France maintenant pour parler de notre scène locale, puisque le prochain groupe est originaire de Montreuil. Il s'agit de King Kong Meuf, qui a sorti un album il y a quelques mois, sobrement intitulé « J'emmerde la bienséance, le monde est à moi ». On s'écoute un premier extrait avec le titre « King Kong Meuf ». C'était King Kong Meuf du groupe King Kong Meuf, tout simplement. Et c'est Héloïse qui a l'honneur de nous présenter le projet.
Honneur, comme tu dis. Alors, King Kong Meuf est un quatuor montreuillois formé en 2022 par Bébé au chant, Jack à la basse, Didi à la batterie et Sofiane à la guitare, qui vient de sortir son tout premier album, J'emmerde la bienséance, le monde est à moi, paru en décembre dernier. Un groupe formé dans le sillage de la Comédia, un ancien bar-concert un peu particulier de Montreuil, à la fois très rock'n'roll, mais où se sont passées des choses problématiques et que j'ai moi-même beaucoup fréquenté, en même temps que certains membres du groupe. Sofiane tournait alors avec Wild Brains, qui existe d'ailleurs toujours, et Didi avec l'Elix and Didi. Et je suis un peu émue qu'une chose aussi positive que King Kong Meuf ait pu éclore d'un pareil endroit. Tirant son nom d'une référence à Virginie Despentes, dont les ouvrages King Kong Theory et Apocalypse Bébé innervent deux titres éponymes de l'album, King Kong Meuf est un groupe de meufs qui jouent du punk. Un punk qui dit au punk d'aller se faire foutre, lorgnant autant vers le garage que le Riot Girls en passant par le post-punk, sans jamais se laisser enfermer dans des cases. Un combo basse, guitare, batterie dopée à la saturation, exécutée à une vitesse folle au service de textes en français, qui causent pêle-mêle de féminisme, de crade et de ces codes qu'elles font voler en éclats. Mais King Kong Meuf, c'est également et peut-être surtout ces concerts que le groupe a très rapidement enchaîné dès sa création, développant un véritable show rappelant à bien des égards l'aspect circassien des berruriers noirs, et là Guillaume se roule par terre, du maquillage, des costumes, parfois même des baguettes de batterie enflammées. Sur scène, Bébé arbore un maquillage qui bave, un torse nu couvert de faux sang, en bref du crade qui colle à leurs paroles et un véritable spectacle dont se dégage une énergie folle. Au total, J'emmerde la bienséance est un album qui dépoussière une scène punk vieillissante, beaucoup trop masculine pour nous proposer un joyeux bordel et même un vent de fraîcheur qui fait du bien à entendre.
Et toi Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé?
Mais en fait, moi je... Allez, on va dire globalement j'ai apprécié, maintenant je peux développer. Donc King Kong Meuf, c'est un groupe éminemment féministe et politique, donc c'est tout pour plaire à Guillaume, qui pourra en dire tout le bien qu'il en pense juste après. Moi j'avais vu le groupe au Cirque Électrique en mars 2024, j'avais été plutôt bluffé, particulièrement par la présence scénique de la chanteuse, même si les sons de guitare tiraient un peu trop vers le métal à mon goût. Sur ce mini-album, Maxi EP, enfin 11 titres, 19 minutes, on ne sait pas vraiment comment on l'appelle. Alors sur cet enregistrement, le son de guitare me convient. Je retrouve l'énergie, la fureur même du live et le flow de la chanteuse entre Riot Girl et rap. Alors il faut rappeler que le groupe partage parfois la scène avec Irascible, un rappeur qu'on a reçu plusieurs fois dans Constreuil pour des soirées de soutien au CICP. Pour moi, donc, c'est une franche réussite, alors que je pourrais très bien ne pas y succomber et rester totalement réfractaire. Parce que, en fait, pour moi, dans le genre, c'est une franche réussite, je le répète, mais je peux vraiment comprendre que cela soit trop minimal pour certains. Allez, le suivant peut-être.
Bah oui, vous pensez bien que encore une fois un cri du cœur va sortir de mes paroles après l'écoute de cet album, comme à chaque fois qu'il m'est imposé d'écouter ce type de disque. Hein. Pourtant tout avait bien commencé. La trompette à la Dogface Thurman's sur le premier morceau FTG m'a totalement bluffé. Que se passe-t-il? Entendrai-je enfin un bon album de punk français? Il faut dire que j'ai trop eu à subir ici les pires infamies en matière de punk rock hexagonal pour ne pas avoir lancé l'écoute de celui-ci avec une grosse appréhension. S'accompagnant d'une belle distorsion, ce FTG est très réussi, et donc j'espérais réentendre la trompette sur d'autres titres, mais en vain. Vraiment dommage, d'autant que tout le reste du disque ne va se montrer pas à l'avenant, loin de là. Le morceau suivant est une virgule sonore en forme de dégueulis, plutôt pas mal, ouais. Après, les choses se gâtent avec le troisième qui lance la salve punk bourrin qui va suivre. Le quatrième, en effet, du caractère avec son intro, sa pause, l'envolée finale pas si mal. Le cinquième est quelconque à nouveau. Les paroles du sixième sont amusantes. Le septième est plus caricatural, comme le huitième. Le neuvième, pour moi, c'est une reprise d'un morceau de groupe de rap en version punk, mais sans rien de bien original. Le dixième est une virgule instrumentale. Et enfin, le dernier, le onzième, là encore, du punk bourrin sans intérêt. Autrement dit, à part FTG, tout le reste du disque s'apparente à une caricature de ce que notre punk à nous fait de pire, s'astreint délibérément au plan musical dans le médiocre. J'emmerde la bienséance, le monde est à moi, et de ce point de vue, une bonne illustration de cet autre drame de notre scène punk rock française, son refus de pratiquer autre chose qu'un punk basique et au ras des pâquerettes, et donc d'être volontairement musicalement inintéressant, ce qui ne peut manquer d'interroger. King Kong Meuf, après un premier morceau réussi à mon goût, l'enchaîne par une minute de dégueulis pour partir ensuite dans le travers habituel du punk bourrin de bas étage qui se désintéresse complètement de la qualité de l'instrumentation. Comment interpréter cette posture radicale? Musicalement, en refusant de se montrer original, de bosser ses compos, de s'autoriser à sortir du sempiternel cadre punk bourrin, King Kong Meuf s'assure de ne pas se compromettre face à la doxa punk française. Enchaîner un autre beau morceau que FDG aurait été trahir le cadre formel qui organise la scène punk hexagonale depuis 40 ans. Or, sortir serait sombrer dans la bienséance. C'est tout le paradoxe d'être une rebelle punk en France. Il faut y être conformiste en tant que musicien, alors qu'au niveau des textes, la liberté la plus totale est permise, voire même est attendue. L'un irait-il sans l'autre? Le cadre de l'un offrant-il la licence à l'autre? Je ne sais pas, sinon que ça me navre depuis toujours, et donc avec cet album également. Aussi, en paraphrasant nos King Kong meufs, je demeurerai ferme sur mes positions. J'emberne non pas la bienséance, mais le punk français. Le reste du monde de la musique est à moi.
Bon, Cédric.
Comment enchaîner?
Ouais, vas-y.
Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est un très bon album. On va voter d'ailleurs à la fin. Voilà. Rien qu'une de mieux que la démocratie, Guillaume. Donc, ça se situe dans les univers d'autres groupes contemporains, les Vulf Assassin, Martine, ces groupes punk féministes radicaux, avec une vraie science de la mise en scène, du spectacle, qui rappelle parfois aussi le cirque, mais ici d'un point de vue très positif, hein, je dis ça, ou la mobilisation, les manifs. Moi, je trouve que la voix grave fonctionne super bien, que c'est hyper efficace, que les titres restent dans la tête, enfin, celui qu'on vient d'entendre, pas l'entendre deux fois pour qu'il te reste des jours entiers à l'esprit. C'est vraiment les dignes successeuses de Virginie Despentes, à la fois sur les deux titres, mais aussi de son groupe Straight Wire, qu'elle avait fait avec Karazina il y a déjà quelques années. Je trouve qu'il y a quand même une très grande variété des styles punk aussi, qui n'était pas nécessairement attendue, depuis des plus classiques proches des Berrues, mais jusqu'à du hardcore. Et tout ça avec des textes qui font mouche, hein, qui s'en prennent aux multiples oppressions et qui rencontrent de multiples combats, et en particulier c'est un sacré coup de pied dans la gueule des punks machistes et masculinistes, quoi. Alors on peut leur reprocher ça, quoi, en gros, de laisser passer le militantisme devant le reste. Moi ça me va bien. On peut leur dire aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces combats. Bon, d'une part, c'est pas elles qui ont décidé que le monde était comme il était, et puis c'est parce qu'on a aussi une focale dans cette émission sur ce type de groupe, mais quand même la grande majorité des productions culturelles, ils parlent pas de ça, quoi. Ils parlent souvent de rien, donc ça fait quand même du bien de le dire et de le redire, quoi. Surtout par les temps qui courent, et le côté aussi un peu plus, alors ça vous semble un peu plus pour les vulves assassines, c'est-à-dire la proximité des moments de militants, ça a aussi une tradition dans le mouvement punk et dans la chanson des protest songs, d'avoir des chansons soit qui sont reprises par des manifs, soit des groupes qui reprennent des chansons de manifs, hein. On pense notamment ces dernières années à Les Légas, du groupe d'action musicale des années 70, qui a remis aussi au goût du jour les René Bidamé, à motiver, ou la jeunesse en mer de Front National, que reprennent allègrement les manifestants et manifestantes depuis maintenant plus de 20 ans, d'ailleurs, peut-être même 30 ans, je ne sais
40,
pas.
Tu peux mieux dire 40.
Voilà. Mais tout ça est une longue histoire qui est vraiment aussi intéressante, une longue histoire des reprises populaires de la chanson musicale, des chansons ouvrières auparavant, des chansons antifascistes, etc. Donc super, écoutez cet album, vraiment bien, vous avez passé un bon été en écoutant ça.
Et pour faire plaisir à Guillaume, on va écouter le titre avec la trompette, là, le FTG.
Doc Festerman, écoutez ça, c'est vachement mieux.
Tu vas s'en faire exprès. C'était FTG du groupe King Kong Muff. Et maintenant, on va rester dans le registre bruyant et énervé avec un groupe noise originaire du Maryland aux États-Unis. C'est parti pour le titre Deceiver du groupe Birth Defects.
Oh,
Voilà, on vient de se nettoyer les oreilles avec le titre Deceiver de Birth Defects. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce groupe ?
Du noise rock pour les mordus de noise rock par des mordus de noise rock. La formule est citée sur le bandcamp de l'album et elle lui colle parfaitement pour qui n'a jamais su apprécier les saveurs de la Japan Noise de Merzbo, les lourdeurs répétitives de Flipper, les distorsions soniskiesques ou tout simplement apprécier le bleach de Nirvana, cet album peut avoir un effet de repoussoir. Mais à celles qui savent s'élever vers les hauteurs et dépasser le compte à soi du post-punk contemporain, ce disque se révèle une agréable surprise. Mené par le chanteur Sean Gray, figure locale de la scène de Baltimore, le groupe réunit 8 musiciens nord-américains ayant contribué à divers titres aux 9 morceaux que comprend l'album. Il faut dire que son enregistrement s'est étalé sur plusieurs années, entre 2015 et 2024 précisément. Le groupe Birth Defects s'est en effet formé vers 2014 à Baltimore, avant de plus ou moins splitter après la sortie de quelques EP, pour finalement réapparaître en 2025 avec la sortie d'un premier album, Deceiver Mirror, et enfin ce second album qui vient de sortir en mai là, chez Fictional Days qui s'appelle, dont la genèse n'est pas très claire. Il semblerait que ce soit pour les musiciens une manière de fermer la boucle et de terminer en beauté en y rassemblant des morceaux inédits, 4 d'entre eux et 5 covers. L'album est sorti chez le recommandable label de Baltimore là encore, Reptilian Records. Et comme disait ma grand-mère, on ne peut pas se tromper sur la marchandise. Ça crisse, ça strie, ça larcène de partout sur ce disque, qui se veut autant un hommage à une certaine scène rock, noise, punk, US, en déshérence ces dernières années, par les reprises des Comsat Angles ou SSD, que sa remise à niveau par des compos dans leur continuité. Il y a clairement un côté extrémiste à cette musique par l'usage abusif de convulsions sonores, d'altérations les plus diverses possibles des sons de la guitare. C'est pour autant ce qui en fait son côté envoûtant. La superbe reprise qu'on va entendre ensuite, How Much Are the SSD, groupe pionnier et emblématique de la scène noise hardcore nord-américaine du début des années 80, restitue toute la richesse sonore et mélodique est capable d'atteindre ce genre de morceau, au point d'atteindre une forme de transe par la profusion d'intonations qu'accompagnent les répétitions sans fin des mêmes paroles. Nombre de morceaux sonnent comme des mantras par cette lourdeur répétitive qu'accompagne une veine noise mélodique sur une base garage à la Flipper. C'est une musique qui se savoure, elle est un peu le contrepoint au pop rock des Australian Public House, de styles différents, de façons de cultiver un héritage et de ranimer la flamme et ravir les amateurs amatrices de ces genres musicaux. Voilà.
Est-ce que Cédric t'a été conquis aussi par Birth Defects ?
Oui, ça faisait quand même bien longtemps que Guillaume ne nous avait plus proposé un super groove, parce qu'après bon le métal finlandais ou la pop coréenne. Bon, là enfin on est dans du dur. Non, c'est super. Alors on pourrait toujours trouver à redire un album. En grande partie composé de reprises, de covers, comme on dit maintenant pour faire chic, on pourrait dire bon, ça témoigne d'une panne d'inspiration. Bon, deux choses, déjà rappeler que l'histoire du rock c'est d'abord une histoire de reprises, bon, de pillage aussi certes, mais bon, ça c'est autre chose, mais la plupart des groupes ils sont risqués, on fait ça, les premiers albums de rock d'ailleurs sont quasiment exclusivement composés de reprises, hein. On pense aussi au célèbre et à l'excellent I Fought the Law du Clash, qui est une reprise de Sonny Curtis et de Bobby Fuller, plus dansant, plus folk country, et puis la même reprise par les Dead Kennedys qui fait cheminer le titre, et on pense à d'autres titres, Il est 5h, Paris s'éveille, toujours mieux par Lera que par Ditron, le My Way de Sid Vicious, la Isla Bonita de Happy Drivers, une exception quand même à la queue leu-leu par Philippe Catherine, l'original de Bézu est indépassable. Bref, ici on peut dire que Burst ne fait pas qu'interpréter des tubes, il se les approprie, il les transforme. L'excellent Sunday de Sonic Youth repris ici avec une énergie folle, une tension à couper au couteau. C'est mieux que l'original presque. Cet album est une furie bourrée de larcènes ravageurs, d'hystérie à peine contrôlée. ça renvoie un peu Guy Lavende à du lyrisme bucolique. La reprise de Nirvana est peut-être un peu trop proche de l'original, mais comme c'était déjà un très bon titre original, bah ça passe bien. C'est vraiment un super cadeau de sortie pour ce groupe, c'est sale et puissant. Voilà, c'est un album qui donne une sorte de... qui présente une sorte de liberté quoi pour chaque musicien. C'est ça que ça donne, je trouve, comme impression. Et ils versent un peu moins dans l'expérimental que sur leur album précédent, et moi ça me va mieux, finalement. Super.
Est-ce que c'est un cadeau pour toi aussi, Mathieu?
C'est globalement un cadeau, pas empoisonné. Alors c'est vrai que cet album c'est un peu une compilation de fin de vie pour le groupe de Baltimore, mais ce qu'on peut noter c'est que le son est quand même assez homogène, même si les morceaux ont été enregistrés sur une dizaine d'années. Alors c'est bien du noise rock, parfois teinté de grunge. C'est globalement assez sombre. En guise de découverte, ça donne plutôt envie d'écouter tout ce que le groupe a pu faire avant et pendant les périodes d'enregistrement. C'est un bon teaser, en fait. Pourtant, de mon point de vue, c'est quand même régulièrement métallisé et ça pourrait me rebuter un peu, mais finalement, ça passe crème. Même si je suis pas certain que je pourrais m'écouter l'album en boucle toute une journée, parce que ça peut être quand même un peu éprouvant. Ça signifie simplement que la musique du groupe se mérite. Et il y a quelques moments qui m'évoquent par exemple les Virgin Prunes, qui sont une forme de récompense. Je pense au morceau Postcard par exemple. Donc pour moi c'est une très bonne découverte post-mortem, ce qui quelque part m'empêchera d'espérer d'assister à des prestations scéniques qui n'arriveront jamais en fait. Tout comme je ne verrai jamais Bézu chanter à la queue leu-leu. Mais je le regrette pas non plus.
Et toi, Loïs, t'as pensé quoi?
Eh bien, je vais rejoindre l'engouement général. Généralement, les reprises m'inquiètent. Je fuis comme la peste les groupes de covers conspuant leur manque de créativité en dépit d'un talent souvent réel. Et pourtant, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cet album qui revisite des morceaux de groupes que j'adore, tels que Nirvana ou Sonic Youth, tout en proposant 4 titres originaux remarquables. Cela m'a rappelé à quel point j'aime la noise et ses tombereaux de dissonance. Cela m'a ramené à mon enfance lorsque j'ai pour la première fois mis le pied dans l'engrenage d'une pédale d'effet, devenant aussitôt accro à la fuzz et à la disto. Au départ, il y avait tout de même quelque chose d'assez risqué de s'attaquer à des reprises de groupes aussi appréciés, presque des monstres sacrés tels que Nirvana, bien que le morceau en question figurait sur finalement une compilation assez confidentielle. Mais Fictional Dice réussit amplement ce pari, rendant un hommage passionné aux groupes qui ont influencé Birth Defect, en mettant un point d'orgue à leur carrière magistrale. Il en résulte une déclaration d'amour enflammée au noise rock et au final un petit bijou bruyant.
Et ben pour fêter le fait que le projet ait fait l'unanimité, on s'écoute un deuxième morceau qui s'appelle How Much Art.
How much? How much are? fucking hard shit, man. No fucking more hard shit.
Is it too much?
No more hard. No more hard. No more hard. No more hard. No more hard.
How much hard do you take? How much hard can you take? How much hard?
C'était How Much Art du groupe Birth Defects. Changement de registre et de continent maintenant, puisqu'on va finir l'émission avec un groupe grec qui s'appelle Hécaté. On s'écoute tout de suite un morceau, c'est Tears of Blood de Hécaté. C'était Tears of Blood du groupe Hécaté et c'est Mathieu qui va nous présenter le projet.
Voilà, donc Hécaté, c'est un quatuor féminin en provenance d'Athènes et qui sort son deuxième album. Il est sorti fin 2025. Il est sorti chez Mascara Rocks, le label parisien de Victoria, de Maribel, Onoids Diva, entre autres. Le groupe se présente comme faisant de la dark synthwave punk, avec une composition sans guitare. Donc on a ici du chant accompagné de basse, batterie et synthé. Le groupe chante en grec. Personnellement, moi j'avais juste commencé le latin avant de sécher les cours. Autant dire que j'ai pas de certitude sur le contenu des textes, mais je fais confiance à Victoria pour ne pas avoir signé un groupe comportant des membres d'aube dorée. Le groupe est né en 2018, il avait sorti un premier album chez La Vida et Sunmus, ce qui est plutôt un gage de qualité, puisque c'est un label qu'on a retrouvé régulièrement dans les émissions Tatapoum. Et je ne nierai pas qu'il y a de la qualité et de la variété dans les 9 titres qui nous sont proposés, même si les parties les plus synthétiques sont loin de me convenir intégralement. Cependant, il y a de l'énergie, de l'inventivité, et si vous lisez ici ou là que le 6e titre de l'album a une ligne de basse à la Bauhaus, c'est pas faux. La comparaison avec The Passion of Lovers est plutôt troublante. Je n'irai pas jusqu'à m'enthousiasmer, c'est quand même régulièrement assez daté. Et quand je dis daté, c'est plutôt 80s, New Wave, qui n'est pas forcément toujours une grande période dans l'histoire musicale. Mais on ne se plaindra tout de même pas de cette visite Hélène.
Cédric ? Ah non, Guillaume, pardon. Guillaume, toi, c'est quoi ?
Alors, moi de mon côté, en parvenant à mélanger de façon convaincante Dark Wave et Post-Punk, EKT nous sort un album réussi, voilà mon avis sur cet album. Les longues introductions de certains morceaux, voire carrément des morceaux uniquement instrumentaux, sont l'un de ses points forts. C'est, un autre serait la voix de la chanteuse, légèrement haut perché, elle sonne agréablement, sans jamais en faire trop. Les compositions de leur côté sont certes assez simples, techniquement il n'y a pas de grande profondeur, mais ça n'importe peu car c'est davantage dans le travail d'ambiance et le sens mélodique obtenu que repose la valeur du disque. On est dans un cadre mélodique classique, mais le fait de parvenir à développer un cadre sonore cohérent et agréable est le plus important. Cependant, malgré les morceaux les moins travaillés par ce jeu d'atmosphère dark wave comme Service State fonctionnent moins bien. Généralement, alternant entre parties instrumentales et morceaux chantés, les membres prennent le soin de bien débuter et finir les morceaux. Cela s'accompagne ensuite par une ligne mélodique où s'entremêlent le synthé et le chant, avec une belle présence de la basse, la batterie étant plus sommaire, sauf pour lancer les titres. Chanté en grec pour une bonne part, c'est l'ambiance sonore qui donne le ressenti. Un album pas désagréable, donc, que j'ai apprécié.
Cédric, agréable ou désagréable pour toi?
J'ai bien peur que la lune de miel que je vais entamer avec Guillaume sur Burst Defects.
Ah oui, donc ça a été pas mal.
Voilà, ça clôture assez rapidement. C'est un peu embêtant parce que je trouve que tout le groupe avait tout pour être sympathique, très engagé en dehors des circuits commerciaux, gueulant sur l'oppression qu'on peut subir en Grèce. Il y avait aussi le fait que ce soit sur ce label, Mascara Rock Records, qui est quand même un gage d'engagement féministe important. Et puis c'était aussi du post-punk synthwave que j'apprécie bien, même dans les années 80, donc je me disais, bon, très bien. Mais pour le coup, là, je trouve que c'est quand même vraiment trop simple pour moi. Je trouve que là, pas trop d'accord là avec ce que vous venez de dire là sur la voix. La voix, là, je la trouve vraiment monocorde. Quel que soit le titre, je trouve qu'il y a très peu de musicalité dans cette voix. J'ai vu d'ailleurs qu'elle remerciait sa prof de chant. Alors, c'est pas trop ce qu'elle lui a enseigné, pour tout dire. Voilà. Et le synthé, le fait qu'il n'y ait pas de guitare, du coup, le synthé occupe beaucoup de place. Et il est parfois assez rudimentaire, trop à mes yeux. Bon, il y a aussi cet instrumental là au milieu là de 5 minutes avec des sons de relaxation. Je sais pas trop bien ce que ça vient faire là. J'ai bien vu la référence à Bauhaus, mais bon, il y a pas le côté noir de Bauhaus quoi. Et du coup, je rentre beaucoup moins dedans. Voilà, donc je suis un peu tout triste de dire ça, mais j'ai pas aimé.
Voilà. Et Louise, est-ce que tu vas sauver EKT?
Je vais tenter, forcément, évidemment. Ce serait mal de me connaître que d'affirmer le contraire. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album qui est à la fois envoûtant et rageur et qui m'a rappelé des groupes tels qu'Ostafka, notamment en raison du timbre de voix si particulier de la chanteuse Lydia qui porte pleinement l'album, mais également, bon, Bauhaus, dont l'influence inspire le groupe, vous l'avez un peu tous rappelé. Un disque qui est chanté à la fois en grec et en anglais et qui est ponctué de références impromptues à l'Islande, notamment à travers le morceau instrumental que Cédric a détesté, ou encore justement à travers les cours de chant que l'artiste islandaise Venus Volcanism a donné à la chanteuse. Mais ce que j'ai le plus apprécié, je pense, c'est le contraste saisissant entre cette atmosphère un peu envoûtant et la rage qui s'enferme du disque, qui véhicule un message politique assez incisif, puisque l'album s'ouvre avec un morceau qui s'intitule « Guerre civile » en grec et qui se fait l'écho des bouleversements sociaux qui ont secoué le pays au cours des 5 dernières années, à l'image de l'incroyable Service State et ses rythmiques synthétiques électro qui dénoncent la poussée de l'extrême droite en Grèce et ses composantes machistes et racistes. Au total, Black Hole est un disque que j'ai trouvé très audacieux et tout simplement beau, que j'ai beaucoup aimé.
Et pour la peine, on va s'en mettre un dernier. C'est le titre Boubéphoné, traduit par Des voix silencieuses. Et c'est toujours le groupe EKT.
Thank you. On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était l'épisode numéro 78 de l'émission Tatapoum. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous retrouver d'autres épisodes de l'émission sur le site de Radio Cause Commune, sur la page de l'émission. Et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.